le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.
9h37, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Nous sommes en direct sur Radio Imo, sur Radio Territoria. On est ravis de vous accueillir pour ce 81e congrès de l'Union sociale pour l'habitat. Un congrès placé sous le signe effectivement de du symbolisme et du symbole. Nous nous retrouvons enfin, c'est blindé de monde, c'est normal, on avait besoin tous de se retrouver, de se rencontrer. On va arrêter les visios, hein, on va arrêter de s'appeler, de faire des calls et on va essayer de se rencontrer, de se serrer la main si on peut. On sera des câlins plus tard, hein, quand le virus aura disparu. En tout cas, on y habitera avec vous. Voilà, 9h37, on est en direct. Grosse actualité pendant ces deux jours. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à télécharger les podcasts qui sont mis en ligne systématiquement après notre direct, ainsi que le partage sur les réseaux sociaux. On va entamer cette première séquence avec une table ronde. On va parler d'énergie sur le plateau. J'ai le plaisir d'accueillir la présidente d'Enerlis, Aurélie Godière. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, merci. Et vous, Sylvain ?
Eh ben écoutez, ça va. Mieux ce serait la gourmandise. Hein. Ah. On va être comme ça.
Laura Très Pinson. Heureux de vous voir en présentiel.
Merci. Enfin, on s'est déjà rencontrés.
Mais pas d'aussi près, Sylvain.
Si, si. Vous étiez venu une fois dans nos plateaux pour un média training, rappelez-vous.
Oui, c'est
mais
vrai.
Mais on s'était eu aussi en visio. Ouais. Laura, vous êtes Laura Pinson, vous êtes directrice du développement commercial du groupe Enerlis. Merci d'être avec nous. Et j'ai, alors je vais essayer de le prononcer correctement. Hein.
Je vous en voudrais pas.
Geoffrey Mittelstadt.
Mittelstadt,
c'est parfait. Ça.
Et vous êtes responsable du pôle commercial au sein du groupe Enerlis.
Exactement.
Voilà, on fait un petit clin d'œil à celui qui nous écoute, Philippe Niel, directeur commercial qui est à l'écoute. Bonjour Philippe, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes assez nombreux de, justement, notamment ce matin, parce que comme vous le savez, le Premier ministre Jean Castex va annoncer normalement, dans une trentaine de minutes, les mesures, les 13 mesures annoncées par François Rebsamen. Je rappelle que nous serons d'ailleurs avec François Rebsamen le 19 octobre à Dijon, dans sa mairie, pour parler justement de ce fameux rapport qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Je vais commencer par vous, Aurélie Godière. La rénovation énergétique, la transformation énergétique, c'est un peu la dent creuse aujourd'hui au niveau de l'industrie et de la fabrique de la ville. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer cette interview par un tour d'horizon ? Comment se portent aujourd'hui les projets de rénovation et de transformation énergétique dans notre pays ?
Alors, ce que je peux commencer par faire, c'est déjà présenter Enerlis, c'est ce que fait Enerlis. Et comme quoi, il y a une place pour des sociétés comme les nôtres, puisque nous, on se positionne comme un opérateur global de la transition énergétique avec deux objectifs. Baisser la facture énergétique de nos clients et diminuer leur empreinte environnementale en mettant en place les énergies renouvelables. Nous sommes autour de trois sujets que sont le bâti, la mobilité et les ENR en transverse. Nous sommes ici donc au congrès HLM puisque les bailleurs sociaux sont nos clients historiques qui nous ont fait confiance dès le départ puisqu'ils sont positionnés sur ces questions environnementales et de rénovation énergétique depuis finalement très longtemps. Alors il y a de grandes ambitions. On les accompagne. Donc, le but d'Enerlis, en fait, c'est de diminuer le reste à charge de ses clients tout en baissant, diminuant son empreinte environnementale. Donc, on fait des audits qu'on essaye de financer en partie. On préconise des travaux qu'on réalise, qu'on finance tout ou partie et évidemment, on s'engage sur les résultats. Laura pourra vous expliquer.
Alors justement, alors merci d'avoir présenté. Effectivement, vous êtes. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur votre marché et qui se développent plutôt pas mal. On voit qu'il y a un marché qui se développe plutôt bien. Est-ce que c'est un marché, Laura Pinson, qui est un marché soutenu ? Soutenu par des subventions, soutenu par des aides. Alors il y a les fameux C2E, d'ailleurs, dont les particuliers ne savent pas ce que c'est qu'un C2E, hein, certificat d'économie d'énergie.
Les particuliers, non, mais les bailleurs sociaux.
Alors les bailleurs sociaux, c'est sûr, ça, les bailleurs sociaux, les foncières, mais aussi toutes les sociétés, la fabrique de la ville, pas uniquement les bailleurs sociaux. Est-ce que vous pouvez nous aider à y voir clair, justement, dans tout ça ? Comment ça se passe quand j'ai des projets, par exemple, à l'échelle d'une copropriété, à l'échelle d'un immeuble complet pour une foncière privée, par exemple, ou un bailleur social ? Comment ça se passe concrètement ?
Alors, l'idée, parce qu'on s'occupe, nous, hein, de cet accompagnement. Donc,
c'est hyper important d'accompagner ses clients dans les structures de financement.
Tout à fait. Surtout que...
Et ils attendent beaucoup de vous là-dessus.
Ils attendent beaucoup et ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver dans les multiples aides qui peuvent exister. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que les certificats d'économie d'énergie, c'est le levier, en tout cas en termes d'aide, qui reste quand même le plus clair, le plus fiable. Même si pour les bailleurs sociaux, ça va être un peu compliqué, puisque dès janvier 2022, en fait, ils feront face à l'arrêt de la bonification de la grande précarité. Donc, ils vont perdre beaucoup de ces financements. Et aujourd'hui,
c'est pas une bonne nouvelle, ça. Hein.
Non, c'est pas non. du tout une bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de bailleurs sociaux, en fait, se servent des C2E pour construire leur plan stratégique de patrimoine et planifier leur réhabilitation lourde, etc.
Donc, surtout que c'est un chantier, mais colossal. C'est 20 ans de chantier pour les bailleurs sociaux. C'est énormissime. On a fait un gros dossier là-dessus. C'est un non-sens, ça, de supprimer cette bonification. Franchement, Aurélie Godillère, c'est pas...
Alors, c'est un non-sens.
C'est un non-sens. Remarquez, en même temps, ils ont échappé à une ponction d'1,3 milliard d'euros, quand même. Hein. Je rappelle qu'avec Action Logement, il y a eu un travail de lobby très puissant qui a été fait avec Emmanuel Wargon, qui a plutôt bien réagi là-dessus. Et c'est le Premier ministre Castex qui a tranché en disant qu'il n'y aura pas de... Donc, est-ce que peut-être qu'il y a une relation de cause à effet ? On ne sait pas.
Je ne sais pas, je ne suis pas dans les petits papiers encore.
Bon, on va essayer de poser les questions pour.
Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, grâce aux bailleurs sociaux en France, c'est les bailleurs sociaux qui guident la rénovation énergétique.
Et
ce sont eux quand même les gros faiseurs aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui est très compliqué aujourd'hui, c'est la rénovation énergétique dans le logement privé. Mobiliser les copropriétés, que les copropriétés accèdent aux aides, puisque au-delà en fait, de la nécessité d'un accompagnement, etc., mettre d'accord 100 copropriétaires autour de la table, c'est plus compliqué que des bailleurs sociaux qui sont des professionnels et qui ont à chaque fois une ligne directrice. En fait, ils savent où ils vont, les bailleurs.
C'est alors, en cela que je vous disais tout à l'heure qu'ils ont toujours été finalement précurseurs, que l'arrêt de la bonification, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour eux, mais en même temps, l'idée du gouvernement et de la DGEC, c'était de décorréler, parce que si vous connaissez un peu le dispositif, il y a deux cours. Il y a un cours classique, un cours précaire, un cours des C2E précaires. L'histoire était de décorréler ces deux typologies de certificats pour que justement le prix des certificats précarité s'envole.
Oui.
On verra si ça leur donne. Puisque raréfaction est égale hausse du cours.
C'est intéressant ce que vous dites, parce que ce matin... À 7h du matin, les premiers journaux ont annoncé une hausse de 12,6%
du gaz.
De la facture de gaz.
Oui, exactement.
On est sur des moyennes de 1500 euros de dépenses domestiques. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Si. Mais je vais citer par exemple une tour magnifique. J'ai fait un dossier sur BFM Business la semaine dernière sur la tour Elitis, la tour Danube, qui est une tour à énergie positive, qui permet en fait un gain de pouvoir d'achat. Moi, je pense que l'avenir du logement... C'est un logement qui permet d'améliorer le pouvoir d'achat et le bien-être des individus dans le logement. Alors, je vais m'adresser à vous, Geoffrey. Quand on voit aujourd'hui les difficultés qu'ont les bailleurs sociaux, notamment parce qu'ils sont soumis à la commande publique, gros sujet, c'est une galère. Hein.
À nous, on y est confrontés tous les jours. Non,
pourquoi
on
faire
compose
simple
avec.
Attendez. Pourquoi faire simple puisqu'on peut faire compliqué. Ouais. Donc la commande publique, c'est une tannée. Non, mais il faut le dire. Hein.
Oui,
c'est
je suis complètement
tannée.
D'accord.
Et ça crée une force d'inertie, terrible. Vous qui êtes aussi au développement du business, comment vous essayez de... Voilà, ça doit être sur des dossiers assez sportifs quand même. Hein.
Oui, c'est assez sportif. Et puis on essaie d'innover. On est bien sûr accompagné par des avocats. On innove dans nos contrats. On innove sur des solutions globales. L'idée, c'est de décloisonner les façons de faire, puisqu'on travaille toujours en silo dans le bâtiment avec un AMO, fait une consultation pour un AMO, une consultation pour un BE, il y a différents lots techniques qui font les travaux chacun de leur côté, et ensuite il y a une transition entre le monde des travaux et le monde de la maintenance qui n'est pas toujours bien faite. Donc on essaie de décloisonner au maximum les façons de faire en tant qu'opérateur global pour se positionner sur de la conception, réalisation et solution de financement. Donc avec, comme Aurélie le précisait, des engagements sur le résultat qui fait partie de notre ADN.
Donc alors,
c'est vraiment cette simplification et casser ces barrières qui est entre les différents
métiers.
Est-ce
que ça vous arrive de faire des marchés de gré à gré ?
Alors, jamais. Sur le privé, oui.
Jamais chez les bailleurs.
C'est
jamais
pas possible.
Non, parce qu'il y a un seuil au-dessus duquel ils ont la possibilité.
Alors, on parle d'une innovation, sur un...
C'est quoi le seuil ?
Dans les ENR, c'est 100 000 euros.
C'est 100 000, ça
100 000
va,
euros. Ouais. On peut faire... Oui, mais ça peut chiffrer vite quand on... Ouais. On veut innover, par exemple, je pense à des chaudières bas carbone, des choses un peu...
Ça, c'est super, ça.
Voilà.
Ça, c'est l'avenir.
Bah, c'est
l'ADN.
Et c'est la raison d'être d'Enerlys,
hein. Oui,
décarboner, aider les bailleurs à décarboner leur patrimoine.
Il faut décarboner et aider les gens à mieux vivre. Parce qu'au-delà de décarboner et de dire, voilà, dans mon résultat, pour les bailleurs sociaux, c'est autre chose, c'est améliorer la vie des gens. Quoi. Il y a des gens derrière, hein. Il y a des gens qui payent, il y a des gens qui payent l'énergie. Il y a aussi des problèmes de qualité d'air intérieur, qui est un vrai sujet aujourd'hui. Il faut arrêter de calfeutrer les immeubles,
exactement,
et de calfeutrer les fenêtres. On peut détalonner une porte, on peut laisser circuler l'air. Et ça, c'est un impact, et on le sait maintenant. Et heureusement, à l'époque, on en parlait une dizaine d'années, on le prenait pour des rigolos. Mais aujourd'hui, on sait que ça a des impacts sur la santé publique. Et donc, un immeuble peut être une arme par destination. Il faut le dire, ça. Mm. Et donc, ce que vous faites est non seulement important, mais vous devriez être reconnu d'utilité générale et d'intérêt public.
Merci.
Alors, vous et l'ensemble de votre secteur, je précise, hein, quand même.
On
va m'accuser de servir la soupe à Enerlys.
Ouais, ça va de soi.
Non, ce que j'aimerais aussi qu'on parle d'un sujet. Alors, il y a deux lois qui nous sont tombées dessus, mais vraiment assez... On connaît bien les contours. La loi 4D avec un très gros volet sur le logement. La loi climat-résilience qui a été enfin adoptée. Okay. On sait que d'autres lois ont été un peu enterrées dans cette législature, notamment la loi Nogal qui va être, à mon avis, différée à la prochaine législature. Mais je voudrais aussi qu'on évoque, par exemple, l'élargissement de ma prime Rénov, qui a fait un carton cette année, qui fait un vrai carton. On a reçu Emmanuel Bargon il y a 15 jours sur le plateau avec nos amis de Capital, où on va atteindre à peu près 800 000 dossiers. Je rappelle juste qu'il y avait 250 000 dossiers ou 280 000 dossiers l'an dernier, et qu'ils ont été atteints très largement. La ministre du Logement, l'exécutif, nous promet un prolongement, en fait, de ma prime Rénov. Problème, encore une fois, mais ça, c'est normal, c'est l'État, c'est que tout ça, il faut le financer. Et c'est pas évident. Est-ce que, Aurélie Godillard, vous saluez le fait qu'on a pu étendre au 1er juillet 2021 ma prime rénov à l'échelle des copropriétés, ce qui facilite le travail, parce qu'on a des copropriétés où la rénovation peut nécessiter plusieurs millions d'euros d'investissement.
Tout à fait.
Ce qui est quand même ce qui est pas neutre du tout. Le fait qu'on ait prolongé cette durée, est-ce que vous pensez que c'est un signe favorable? Et comment est-ce que vous-même, dans votre activité, vous travaillez avec des copropriétés avec qui ce n'est pas toujours facile de travailler?
On ne peut que saluer les initiatives comme celle d'élargir, enfin, et d'étendre la prime Rénov. Devrait y en avoir encore plus et qu'on soit encore plus ambitieux. Mais il faudrait aussi s'attaquer au vrai problème des copropriétés, qui est la prise de décision. Et comme on en parlait tout à l'heure, quand vous me parliez des marchés publics, et que c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est un peu pareil sur les copropriétés. Et je pense que le maître mot doit être la simplification. Simplifier, digitaliser. Alors, je sais qu'on a affaire...
Un exemple.
C'est-à-dire que tout est compliqué. C'est-à-dire, dans une copropriété, vous avez peut-être déjà eu la chance d'assister à une réunion de copropriétaires. Bon, vous savez tout ce qui s'est passé en amont. Déjà, vous devez avoir le gestionnaire de copropriété qui doit comprendre de quoi vous lui parlez. Ensuite, vous avez le conseil syndical. Quand vous avez réussi à sensibiliser tout le monde, ce que tout le monde comprenne, ensuite, vous avez l'assemblée des copropriétaires qui passe une fois par an. Donc, vous avez intérêt à ne pas vous rater.
Ah oui, on travaille sur une année. Ouais,
et vous travaillez sur une année. Ouais. Et il se peut qu'il y en ait certains qui ne soient pas du tout sensibles et qui votent contre. Et puis voilà, tout tombe. Et puis, vous repartez pour un an. Donc
pour qu'ils soient sensibles, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut être très clair. On met l'accent sur l'argent. Sur si vous le faites, ça va vous économiser, ça va valoriser votre bien, vous le vendrez mieux.
Tout à fait.
Voilà. Je pense qu'il faut passer un peu par soutenir, justement, grâce à ma prime Rénov, peut-être un peu contraindre en disant que, vous savez, d'ici quelques années, votre logement, il sera dévalorisé. Je pense que malheureusement, dans les copropriétés, en tout cas, parce que c'est là où il y a finalement le plus gros gisement d'économie d'énergie, et dans le logement privé.
Est-ce qu'ils sont conscients de ce qui va se passer en 2025, 2028 et 2034?
Là, je passe la parole à...
Quand on sait que les étiquettes F, G et E vont être retirées du marché, je donne juste un chiffre, hein, comme ça. Dans le parc privé, c'est 1 700 000 logements.
Oui.
Si vous prenez le parc locatif des bailleurs sociaux, on est à plus du double. On ne sera pas prêt en 2028. Hein. Donc, vaut mieux rénover vite.
C'est ça, mais au moins les bailleurs sociaux, ils ont leur plan stratégique de patrimoine, ils ont leur feuille de route, ce qui n'est pas du tout le cas.
Il faut les
copropriétés avec qui elles ont un patrimoine très 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 diffus. Et il n'y a que malheureusement en obligeant en fait qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Mais il faudra des subventions, il faudra des aides, il faudra simplifier la globalisation des offres. C'est ce qu'on dit. Là, toutes les aides vont vers les offres globales, ce qui est très bien. Mais à mettre en œuvre, c'est d'une complexité.
Moi, je vous comprends. Pardonnez-moi. Je vous comprends. Sauf que on vit dans un environnement qui est technocratique, vous êtes d'accord avec moi ?
Tout à fait.
Dans
oui.
un environnement qui est politique, avec des forces contraintes, comme dirait Guy Oppenheim, le directeur général du Crédit Agricole, des contraintes absolues, dans lesquelles il n'y a pas d'option. Il faut travailler avec, sauf qu'elles sont antagonistes entre elles. C'est un peu schizophrène dans tout ça.
C'est français, comme, ça.
Ouais, oui, bah oui, oui. Mais en même temps, la France se comporte très bien sur le plan du climat.
Ah oui.
Non, mais il faut rendre justice à notre pays. On se débrouille plutôt pas mal.
Et non, il faut saluer quand même les bailleurs sociaux, parce qu'ils font quand même un travail. Ils sont vraiment méconnus.
Les bailleurs sociaux, c'est la lanterne dans l'immobilier.
Ah non,
c'est eux qui montrent le chemin.
Ils sont vraiment pas... Je trouve qu'ils sont pas assez valorisés. On valorise pas leur mission, de toute façon, en général, alors qu'ils ont un rôle tellement important dans une ville et à l'échelle d'un département. Pour en revenir aux copropriétés, vous savez qu'il y a eu le fameux rapport Sichel.
Oui, où Olivier Sichel.
Voilà, Olivier Sichel. Il faut... encore une fois, tout massifier, avoir un grand accompagnateur. Bon, moi, je ne pense pas que ce soit forcément la solution. C'est bien
pourquoi
un conteste. Bah, parce que ça vous rajoute encore une surcouche de quelqu'un.
Bah, Olivier, il parle d'une forme de guichet unique, en fait. Ce qu'il dit, ça serait bien d'avoir un arbitrage. Ceci dit, tout le monde a essayé, même les métropoles. Hein. Oui. Vous savez, dans chaque métropole, vous avez un ALEC, vous avez une agence pour l'environnement.
C'est ça que je dis ça.
Avec l'EDF, on a fait une grosse tournée l'an dernier qui s'appelle les Copro Vertes. J'ai halluciné de voir les dispositifs. Il y a des dispositifs d'aide qui sont variants d'une ville à une autre. D'autres qui abondent, d'autres qui abondent pas, par exemple. D'autres où on cumule, et d'autres où on peut ne pas cumuler.
Non, moi, je pense qu'il faut responsabiliser les syndics, tout simplement. Ils ont un rôle à jouer. Là, la FNAIM, vous avez entendu, ils étaient contre le DPE, là. Ils ont eu gain de cause sur ne pas inclure les immeubles d'avant 1975, bon, bah, il faut qu'ils montent au créneau et il faut qu'on leur impose aussi, en disant maintenant ils ont un rôle à jouer. Si on veut que le parc privé soit rénové, à l'image des bailleurs sociaux, il faut que les syndics prennent les choses au sérieux et prennent les choses en main.
Et il faut savoir aussi qu'effectivement, avec l'encadrement des loyers, avec le fait qu'on est sur une circulaire ZAN, donc zéro artificialisation nette, on sait que la production de logements neufs, elle sera pas aussi élevée qu'on l'a connue. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Il faudra. Voilà, in fine, moi je pense toujours effectivement aux Français. Comment on va loger les Français? Il y a 5 millions de mal logés en France, 5 millions. Hein. Il y a 2,5 millions qui sont inscrits sur des logements sociaux, et certains depuis plus de 10 ans. À un moment donné, il va falloir se poser les bonnes questions. J'aimerais, pour terminer cette interview, qu'on parle du décret tertiaire.
Voilà.
Alors, quand même. Hein, c'est vrai.
Pourquoi il n'a pas démarré plus tôt
alors, les décrets tertiaires.
Dont on parle beaucoup moins, mais qui, justement...
Vous faisiez allusion à la FNAIM. On prépare un très gros dossier, justement, sur le décret tertiaire. D'ailleurs, je vous solliciterai certainement sur le sujet.
Avec plaisir.
Le décret tertiaire, juste en quelques lignes, pour nos auditeurs, décrivez-nous un petit peu les grandes lignes. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est bonne, mauvaise chose? Comment vous allez l'appliquer? Et est-ce qu'on est encore une fois peut-être dans une usine à gaz qui va nous permettre, une usine à gaz sans faire de jeu de mots, sur le plan de l'énergie?
Alors, oui, c'est une bonne chose. Ça peut paraître compliqué au premier abord. Il faut l'aborder de façon... on parlait de simplification, donc il faut l'aborder de façon très simple et pragmatique. Donc le décret tertiaire fixe les objectifs de baisse des consommations des bâtiments tertiaires à horizon 2050, avec une première échéance en 2030, où on devra choisir donc une année de référence et effectuer moins 40% sur la baisse des consommations, donc moins 40% sur le bâtiment à partir d'une année de référence.
C'est considérable.
C'est considérable. Il y a deux méthodes de calcul. Il y a une méthode avec les valeurs relatives, les valeurs absolues, et il y a une autre méthode donc, qui se base plutôt sur la réglementation thermique. Donc les bâtiments récents, avec la RT 2012 et la RT 2020, devraient être conformes sur le papier au moins à l'échéance de 2030.
Donc, est-ce que vous croyez, Geoffrey, alors, la société Elitis l'a démontré, puisque la société Elitis a une feuille de route. Je vous parle d'elle parce qu'on avait fait un beau dossier là-dessus. 100 tours à énergie positive avec une massification, une densification. Est-ce que vous y croyez, vous, au fait qu'aujourd'hui, les bâtiments, l'avenir pour vous, pour vos entreprises, sera d'équiper tout le bâti, que ce soit sur du retail, sur du tertiaire, sur de l'hospitalité, sur du résidentiel, sur du bureau, avec les bureaux, sur des bâtiments qui vont vivre leur vie et qui vont générer leur propre énergie et qui vont pouvoir travailler en économie circulaire.
Oui, bien sûr, mais là, le challenge est plutôt chez les promoteurs, sur ce type de sujet. Nous, déjà, on s'attaque aux bâtiments existants.
Vous les accompagnez, les promoteurs aussi?
Alors, on accompagne les promoteurs sur toute la partie des énergies renouvelables.
Bien sûr.
On a aussi toute une business unit qui est dédiée au solaire photovoltaïque. Donc, on intervient sur la partie énergie renouvelable avec des promoteurs, mais le vaste chantier, c'est plutôt les bâtiments existants. On parle de tours à énergie positive, mais déjà, on a un parc immobilier sur le quartier d'affaires de la Défense à Paris, qui est colossal, avec des tours des années 70 qui sont des vrais passoires énergétiques avec du simple vitrage. Je peux vous citer un exemple, on a traité la tour Franklin pour le compte d'Asset Property Management.
La tour Franklin, c'est là que j'ai démarré il y a 32 ans.
Donc une belle tour en simple vitrage.
C'était le groupe AXA qui avait acheté cette tour.
Donc maintenant, c'est une copropriété gérée par un syndic. Donc on a les mêmes sujets qu'avec des particuliers, mais là avec des entreprises investisseurs. Et donc l'objectif était de réaliser 270 000 euros d'économie à l'année. Et donc on a un audit de sortie de travaux à faire. Mais normalement, l'objectif, c'est la mise en conformité de cette tour pour le premier stade du décret tertiaire. Donc c'est ambitieux, mais c'est réalisable.
Ce qui démontre que le parc privé a aujourd'hui des enjeux, notamment pour le tertiaire, très, très important pour la transformation énergétique. Mais c'est aussi un bon indicateur parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation du parc tertiaire en logement, par exemple. Et donc, quelque part, vous faites partie de la fabrique de la ville, de toute façon. Oui. On va terminer cette interview. Vous attendez quoi ?
Est-ce que je peux juste rebondir sur le
décret tertiaire ?
Parce que les bailleurs sociaux sont concernés par ce décret tertiaire, notamment par leurs bureaux, leurs sièges sociaux. Et c'est pour ça que Geoffrey aussi faisait cette intervention pour leur expliquer qu'ils sont soumis et
en tant que propriétaire, parce que c'est une démarche concomitante entre les propriétaires et les locataires. Donc du moment où on occupe un bureau qui fait plus de 1000 mètres carrés ou une partie de bureau de 100, 200, 300 mètres carrés d'un ensemble immobilier qui fait plus de 1000 mètres carrés, on est concerné par ce décret tertiaire et on doit se lancer dans la démarche. Donc c'est aussi un nouveau chantier pour les bailleurs sociaux, c'est aussi de s'occuper de leur lieu de travail et de leur lieu de vie du quotidien.
Merci beaucoup Geoffrey Mittelstadt. Dernière question, vous attendez quoi du congrès de l'USH, le 81e congrès ?
Je suis curieuse de voir les ambitions justement sur la transition énergétique, les bailleurs sociaux et la transition énergétique et la décarbonation de leur patrimoine. Quelles sont les ambitions de chacun ? Je sais qu'elles sont, ambitieuses. Je voudrais savoir comment elles vont se concrétiser et être mises à exécution.
Est-ce que vous exposez ici au sein du USH ? Alors on va vous faire un petit peu de pub gratuite. Alors, le numéro du stand, c'est lequel ?
D46.
Voilà, D46. Alors nous, ici, on est ici dans l'espace forum qui est à côté de la plénière avec nos amis de Procivis et les autres bailleurs sociaux. Je salue d'ailleurs nos amis d'Action Logement au passage. Et si vous voulez aller sur le stand d'Enerlis, effectivement, en savoir plus. Alors, l'énergie, ça va être le sujet. Ce qui va être aussi le sujet, c'est l'inclusion. Un vrai sujet aujourd'hui de société par rapport au paradigme de l'étalement urbain et de la hauteur. Le sujet de la hauteur, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde n'est pas tout à fait d'accord avec ça. On n'est pas obligé de dénaturer un paysage quand on fait de la hauteur. On peut aussi y penser de façon harmonieuse. Le décret tertiaire, on en parlera certainement pendant ces deux jours. Merci beaucoup, Aurélie Godière. Je rappelle que la présidente de Enerlis. Merci à Laura Pinson, directrice de développement commercial. Merci d'avoir aussi... Vous lâchez rien, c'est bien ça. Faut pas lâcher. Voilà. Geoffrey Mittelstadt, vous êtes aussi responsable du pôle commercial www.enerlis.fr si vous voulez en savoir plus. Voilà, il est exactement 9h59. Les informations vont être diffusées sur Radio Territoria et sur Radio Imo. On suit beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Normalement, notre Premier ministre va certainement prendre la parole dans pas très longtemps pour nous annoncer justement les fameuses 13 mesures remises par le maire de Dijon, François Rebsamen. Je rappelle dans le calendrier que nous y serons d'ailleurs normalement le 19 octobre à l'hôtel de ville de Dijon avec le maire de Dijon. Merci à tous.
Le 81e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 28 au 30 septembre 2021, en direct du parc des expositions de Bordeaux-Lac, en partenariat avec Procivis, en direct sur Radio Imo et Radio Territoria.